Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport sont avec vous ce dimanche matin. Que l'on espère, oh, qui le saura quoi qu'il arrive. Historique dans l'histoire du sport. Djokovic face à Alcaraz va nous accompagner pendant toute la matinée, va vous accompagner, vous les auditeurs et les auditrices. RMC est la seule radio à vous proposer cette finale en direct. RMC, la seule radio sur place en Australie, à Melbourne. On va y aller dans quelques instants. Oh là là, mais on a déjà les frissons. Bonjour Sarah Pitkowski.
Bonjour à tous, bonjour Georges. Je sais pourquoi tu commences par moi. Parce que oui, moi aussi je suis sur le pont depuis ce matin. Mais tu sais, j'ai une nouvelle.
Vas-y.
Ah, c'est pas une exclue. Mais on a un titre à l'Open d'Australie.
Ah, ben bien sûr, on va en parler.
Eh oui, on a un titre.
Xenia Efremova.
Exactement.
Chez les juniors.
On a bossé
l'office aussi, Sarah. On lève le tennis.
C'est comme les vélos, ça. On gagne chez les juniors et après, c'est plus compliqué.
Arrête de te
mauvaise ambiance.
Il faut bien commencer par quelque part.
On va saluer l'optimisme du matin. Salut Jérôme Pinot.
Bonjour à tous.
Ça va, on sent un sportif, oui. Je rappelle qu'on n'a pas gagné le Tour de France depuis 1985.
Alors, ça depuis. On va y aller doucement.
Chez les juniors, on a des titres, par contre.
C'est après que ça pose problème. C'est quoi ? En fait, c'est un duel entre losers, c'est ça ?
C'est ça.
Qui a perdu le plus longtemps dans son sport ?
C'est qui le plus nul ?
C'est le tennis. C'est terrible, ça.
Ah là, il y a match. Hein.
Alors que lui arrive dans un sport roi.
Ouais.
Salut les amis.
Salut,
quelle joie de vous voir. Nous qui avons été champions olympiques par équipe deux fois en 2021-2024.
Ouais,
vous allez bien ?
Surtout ta catégorie en plus. Hein.
Mais bien sûr, les poids lourds qui mettent les points, tout ça. Un sport mix magnifique de partage, des licenciés, des médailles. Bref, c'est le judo, tout simplement.
Qu'est-ce que tu leur as mis à David Douillet et Teddy Riner en plus ?
Écoute. Non, pas particulièrement.
À la
belote ? Attends, 2-0 contre Teddy, s'il te plaît.
Ah ben voilà.
Et après, il avait 15 ans en junior, exactement. Moi, je suis mes petits camarades. Très bon départ, très mauvais à la fin.
Et c'est quand t'as battu Teddy, tu l'as serré la main la deuxième fois, tu lui as dit on arrête là.
Et j'ai dit tu vas voir la prochaine, il n'y a jamais de prochaine. Mais c'est pas plus mal, j'étais visionnaire, tu sais.
Christophe Cessieux va nous rejoindre dans quelques instants également. On souhaite un bon anniversaire à notre producteur Maxime Abolin, hein, qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Évidemment, il nous écoute.
Bon anniversaire, Max.
Voilà.
Et bien, c'est quoi ?
C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il a guinché hier soir.
Mais parce qu'il laisse les moments historiques pour Kylian Verhoeven, notre producteur aujourd'hui, qui va mener ça demain.
C'est l'anniversaire de ma femme aussi aujourd'hui. Ah, je dis parce que sinon je reviens, plus personne.
Mais t'as laissé les bouquets de fleurs avec les pains au chocolat.
Non, j'ai laissé le thermomètre. 42 fièvres, c'est la grippe. Mais je suis là quand même sur le pont.
Bon anniversaire. Allez, jusqu'à midi au programme de vos grandes gueules du sport. Je vous l'ai dit, évidemment, il y aura le tennis. On va aller très vite à Melbourne dans un instant. Mais à 10h sur le ring, on va parler foot. Croyez-vous encore en Roberto De Zerbi ? On n'est pas dans l'acharnement par rapport à l'Olympique de Marseille, hein, mais il se trouve que l'OM fait l'actu en permanence depuis quelques semaines. Hier, accroché à la dernière seconde, alors qu'il menait 2-0 face au Paris FC. Jean-Louis Tour nous rejoindra pour débattre. Vous votez sur le compte XDGG, supporter marseillais. On vous attend au 32-16. On espère avoir Captain Cessieux à 4 jours de France-Irlande en ouverture du tournoi Destination pour nous dire que Dupont et Jalibert, c'est ensemble ou jamais, c'est maintenant ou jamais pour les deux. Alors la charnière, et puis sur le buzzer, on a 5 jours des JO d'hiver de Milan Cortina, RMC Radio officielle, on sera sur place. Est-ce que les JO d'hiver vous font vraiment rêver ? Le zapping, on va parler tennis notamment, on va parler cyclisme aussi, il y a du cyclocross avec un garçon qui peut là aussi rentrer dans l'histoire, hein, Jérôme.
Bien sûr, championnat du monde, Mathieu Van Der Poel, à la conquête du 8e titre de champion du monde. J'ai des stats sur Mathieu Van Der Poel, c'est affolant.
Parce que j'ai mis dans ma tête, parce qu'il y a un...
Alors attention, il n'y a pas eu de titre chez les juniors hier.
Mais je sais que ce fameux 8e titre, il battrait un autre coureur cycliste. J'ai enregistré son nom en vue du quiz, mais je ne l'ai pas mis dans mon ordinateur.
Sachez que hier, donc, on va faire le zapping, on va faire je remonte le temps aujourd'hui, on parlera de Tsonga Djokovic. Et il y aura les jeux du sport en fin d'émission où Sarah a appris hier qu'on ne pouvait pas tricher.
Ah oui.
Tout simplement.
C'est le jeu triche pas.
Voilà. Parce qu'elle a été éliminée en plein milieu du quiz parce qu'en fait, elle lisait toutes les réponses sur son ordinateur. Ben quoi, j'ai préparé. Et alors
On sent la championne, elle est encore en colère. Elle est arrivée, nous a dit bonjour, super énervée, on peut même pas tricher.
Elle a repréparé en retrichant.
En même temps, elle est du tennis, tu sais, le tennis et le cyclisme ont aussi ce petit point commun.
En fin d'émission, donc participez au jeu avec vos GG, vous remportez le maillot signé et authentifié de Giannis Antetokounmpo aujourd'hui, celui des Bucks de Milwaukee, grâce à notre partenaire authenticsignature.com pour gagner votre maillot de Giannis. Appelez le 32-16, touche 4 ou envoyez jeu, J-E-U, au 7-32-16. 16, jeu au 7 32 16. Notre WhatsApp 06 12 424 424 pour participer également au débat. On vous attend dans un instant. Dites-nous comment vous êtes ce matin, justement, avant ce match historique, parce que c'est ça qui va nous animer. Est-ce que vous êtes prêts à vivre l'histoire avec nous ce matin?
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Je veux juste une dernière danse.
Novak Djokovic écrit une nouvelle page de l'histoire de ce sport. 7e victoire à Wimbledon en 8 finales. 21e titre du Grand Chelem.
C'est fini, Novak Djokovic, il n'exulte même pas, il suffit du regard, les spectateurs du Châtrier, mais le 19e est là. C'est gagné pour Carlos Alcaraz à l'issue d'une finale parfaitement maîtrisée. C'est gagnant, c'est fini. Novak Djokovic tombe. L'impensable s'est produit à Melbourne.
C'est Novak Djokovic qui sort de ce tableau de l'US Open 2024. Il n'y a plus de patron dans ce tableau masculin.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, The GOAT, c'est ça. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, The GOAT, c'est différent. Et ça ressemble plutôt à ça.
Et Novak Djokovic réalise l'exploit insensé. Il jouera pour un 25e majeur. Incroyable, incroyable.
Dernière danse. Oh, peut-être pas la dernière d'ailleurs. On est le 1er février 2026. Notez bien ce jour, vous les passionnés de sport. On se souviendra peut-être dans quelques années ce que nous faisions lors de la finale entre Djokovic et Alcaraz à l'Open d'Australie. C'est à suivre dès 9h30 avec nous sur RMC. D'un côté, l'Espagnol, 22 ans, peut devenir le plus jeune joueur à remporter les 4 tournois du Grand Chelem en carrière. C'est le seul majeur qui lui manque. De l'autre côté, un joueur qui a 16 ans de plus, le recordman de titres en Grand Chelem en quête d'un 25e sacre, un 11e à l'Open d'Australie où il n'a jamais perdu en finale, une légende qui aura 39 ans en mai, battu par les cannibales Alcaraz et Sinner depuis 2 ans dans les majeurs. On pensait qu'il avait fait son temps. C'était avant qu'il obtienne le scalp de l'Italien en demi-finale au terme d'un match iconique. Reste à gravir l'Everest une seconde fois aujourd'hui. Les GG, je vous pose la question ce matin où nous avons rendez-vous avec la légende. Oui ou non, si Djokovic gagne, est-ce que ce sera le plus grand exploit en tennis de tous les temps? Sarah Pitkowski.
Je me positionne sur le oui. Parce que ce titre-là, au-delà de ce titre-là, il continue la collection des records qu'il détient par rapport à tous les autres joueurs de tennis de l'ère moderne.
Jérôme Pinault.
Non.
Fred Le Canu.
À 38 ans, oui.
On vous attend au 32-16 et au WhatsApp, évidemment, 06-12-424-424 pour participer. Eric Salio, le chanceux, notre voix du tennis et notre envoyé spécial en Australie. Et il est avec nous en direct. Salut Eric.
Bonsoir les amis.
Salut.
Bon, raconte-nous Melbourne ce matin, tout simplement. On imagine que c'est toute la planète tennis qui se prépare là à un match pas comme les autres. J'ai vu qu'il y avait même Rafa qui était sur place.
Oui, Raphaël est là depuis 2 jours, puisque bon, on va dire que c'est contractuel, hein, avec une marque de voiture, mais il a fait une petite apparition sur la Kia Arena il y a quelques minutes. Non, mais on sent toute l'excitation. Moi, je suis venu au stade très tôt parce que à midi il y avait la finale des juniors. Donc, mais c'est vrai que ça monte. Alors, j'ai quand même une petite retenue. C'est la météo. Elle est pas extraordinaire. Il fait frisquet. Il y a du vent. Et au moment où je vous parle, je sais même pas si on va jouer en conditions plein air ou alors si les organisateurs vont décider de fermer le toit.
C'est important.
Donc ça, c'est une vraie question. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les joueurs, ça veut dire beaucoup, hein, et surtout pour Novak Djokovic, qui est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Donc, on va surveiller ça. Mais ouais, les places, c'est guichet fermé, bien sûr. Hier encore, on pouvait tenter d'acheter des places à 3000 ou 5000 dollars australiens, ce qui est monumental. Mais non, il n'y a plus de place de libre. Il y a des gens qui ont acheté des tickets annexes, comme on dit, parce qu'ici, à Melbourne, il y a de la place, il y a beaucoup d'écrans géants, il y a des chaises longue, il y a des poufs, donc vous pouvez vraiment savourer l'événement plutôt que dans un canapé. Donc non, ça va être gigantesque, ça va être gigantesque.
Ça va être gigantesque. Tu restes avec nous pour le débat. On va rien rater évidemment aussi de l'entrée des joueurs dans quelques instants maintenant, hein, dans un quart d'heure pour l'arrivée des deux gladiateurs Djokovic et Alcaraz sur la Rod Laver Arena. Sarah, tu dis oui, si Djoko gagne, ce sera le plus grand exploit de l'histoire du tennis?
Oui, parce que Fred le disait aussi à 38 ans. Alors, c'est pas tant l'âge, c'est finalement sa dernière finale de Grand Chelem remonte à Wimbledon 2024 contre un certain Carlos Alcaraz. Et on sait que sur cette dernière année et demie, il dépassait pas les demi des Grand Chelem. On sentait que ça descendait un petit peu. Il est obligé de choisir ses tournois. Et quand on voit la domination et puis la qualité tennis d'Alcaraz et Sinner qui sont en train d'écraser le circuit, on ne voyait pas comment Djokovic, qui s'acharnait à dire qu'il voulait continuer, qu'il puisse encore être à la hauteur. Et donc, si déjà la victoire face à Sinner est un véritable exploit, s'il le fait aujourd'hui, au-delà du 25e titre, ce joueur coche tous les records possibles et inimaginables du tennis masculin. Il aura remporté les 16 titres les plus prestigieux du tennis, que ce soit les Grands Chelem, les Masters, les Master 1000. Mais il a l'or olympique, il a la Coupe Davis, il a passé le plus grand nombre de semaines numéro un mondial et il a fini 8 fois numéro un mondial à la fin de l'année.
Donc en fait, il a tout et plus que tout. En fait, il réinvente l'idée de la légende.
Donc tu peux me
bouleverser l'histoire du tennis s'il gagne aujourd'hui.
Mais Jérôme, t'es évidemment à fond pour vivre cette finale, j'imagine. Mais tu penses pas que ce sera forcément le plus grand exploit ? Pourquoi, Jérôme ?
Je suis à fond pour vivre cette finale, évidemment, mais. Non, je c'est pour moi pas le plus grand exploit du tennis. Pourquoi? Parce que je suis pas un grand spécialiste tennis et pour moi les
Peut-être
exploits viennent de plus loin. Non mais OK, la régularité de Djokovic, si tu veux, c'est moi je compare ça au plus grand, c'est-à-dire que si Pogacar gagne 7 tours puis il arrête d'en gagner parce que un autre arrive et le bat, il revient gagner, c'est pas le plus grand exploit, c'est
la longévité au plus haut niveau.
C'est s'inscrire encore un peu plus dans la légende, mais c'est plus un exploit de gagner un grand chelem pour un mec à tout gagner.
Non, je peux pas. Moi, tu veux dire quoi? Ça reste Djokovic. Il faut pas oublier que ça reste Djokovic qui était en demi-finale de tous les grands chelems.
Voilà, c'est ça. Il est les vrais exploits. C'est par exemple quand Alcaraz gagne son premier tournoi à 20 ans quand il le bat en finale. Là,
c'est une surprise pour toi.
C'est plus une surprise pour moi. Ouais. Mais regarde, c'est quelqu'un qui vient loin. C'est Raducanu qui gagne en 2021 l'US Open. Tu vois, ça vient loin. Personne l'attend. Il gagne tout. Là, c'est un exploit.
Bah justement, moi,
l'exploit, il est pas dans le. Lui, c'est la longévité. Ok.
Mais moi, justement, c'est ça. Non, mais c'est ça qu'un exploit. Regarde, pour aller dans le sens de Sarah, 38 ans, c'est-à-dire que justement tout le monde le connaît. Donc de gagner quand tout le monde te connaît, tout le monde a les fiches, tout le monde sait comment tu vas jouer, tout le monde t'attend. Déjà, ça veut dire que c'est extrêmement difficile. C'est un exploit comme Chang, par exemple, qui gagne Roland-Garros à 17 ans. C'est vrai que c'est un exploit, mais à 38 ans, où tout le monde t'attend, t'as une pression de dingue, il y a tout un système derrière toi, et surtout, je me rappelle, Sarah, ici, t'avais dit, Roland-Garros, il a caressé le sol, Djokovic, on sent que c'est la fin, c'est terminé.
J'étais
un peu de ses partisans de dire qu'on le reverra l'année d'après. Tu vois, 38 ans, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Oui, et
cette capacité de tenir dans le temps,
cette endurance
de réussite.
Oui. On l'a vu venir.
On avait dit,
c'est maintenant.
Non, il y a deux,
il y a deux forfaits. Il n'a pas joué deux matchs.
Ça, c'est vrai.
Il arrive là.
Contre Musetti en quart.
Il avait un peu, voilà. Il a un peu choisi ses horaires pour jouer aussi. On n'a pas trop tiré sur le moteur. On a fait jouer à l'ombre et pas trop au chaud. C'est pas un exploit, c'est préparé. La chose qui va arriver aujourd'hui.
Il y a personne qui l'a vu venir, Jérôme.
S'il gagne Roland Garros, c'est un exploit. S'il gagne, fabuleux, c'est une légende de ce sport.
Pour toi, Nadal et ses 14 titres à Roland Garros, c'est plus un exploit.
C'est pas un exploit non plus. L'exploit, il est pas là. C'est la légende.
C'est la légende.
L'exploit, il est pas là.
Tu avais du mauvais pied. T'étais descendu de quel côté?
On est sur la définition des mots.
Nous, on suit le sport de très près. Mais tu vas aujourd'hui voir du public. Tu leur dis, Djokovic est en finale du de l'Open d'Australie. Ouais. Bah c'est normal en fait. Les gens, ils ont trois mecs en tête dans le tennis aujourd'hui.
Alors voilà, j'attendais cet argument-là, Sarah. Ça veut dire que là, Jérôme va nous dire oui, mais en fait, en face, c'est pas si fort.
Finalement, c'est un exploit parce que
finalement, il n'y a que deux à battre. J'ai battu un, il a fait la moitié du chemin.
Dans l'esprit des gens, de voir Djokovic en finale d'un grand chelem, c'est pas un exploit.
Franchement, je sais pas. Ce matin, tu regardes dans le monde entier. J'ai regardé en Amérique du Sud, aux États-Unis, même dans des conférences de presse. Même les joueurs du 15 de France hier ont été interrogés là-dessus. Alcaraz ou Djokovic, tout le monde est halluciné de le voir là. Et ça fait parler la terre entière qui est un peu stupéfaite de voir Djoko là, alors qu'il est en train de sortir de son vestiaire et qu'on se rapproche de l'entrée dans quelques instants. Fred, quand on a préparé l'émission, tu voulais comparer ça avec Teddy Riner qui arrive à durer dans le temps.
C'est l'endurance de performance.
C'est un exploit, c'est une performance hors norme, ça.
Et tu vois, sans faire de polémique aucune, mais quand on a parlé aussi ici de retour des sœurs Williams, par exemple, qui font pour moi plus de buzz que de performance, et j'en suis désolé de te le dire. Pour moi, là, c'est ce qui m'impressionne, comme Teddy Riner, c'est l'endurance de performance. Parce qu'une compétition, elle est faite pour être gagnée. Alors, je suis d'accord avec toi, Jérôme, le parcours, il est quand même particulier. Il y a deux trous dans la raquette. Il arrive en demi, il est juteux parce que justement, il a pas eu ces matchs-là qu'aurait pu. Voilà. Mais ça fait partie du personnage et ça fait partie du parcours. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est 38 ans d'avoir encore cette volonté, d'avoir encore cette niaque, d'avoir encore cette capacité de gagner, en fait. Parce c'est que ça pour, qui m'impressionne.
Mais alors, tu peux l'avoir, mais il faut aussi impliquer une vie. Qui est d'asset pour pouvoir tenir cette cadence-là, parce que dans le tennis c'est un sport où tu sais quand est-ce que tu commences, tu sais pas quand est-ce que tu finis.
Évidemment, je te dis pas que c'est un légende.
Qu'il y a eu depuis
qui rentre dans la légende, mais la longévité
depuis son premier titre à l'Open d'Australie en 2008. Ce type n'a fait que travailler pour rester performant.
Tu vois, c'est là aussi le parallèle avec Boisson, par exemple, ou avec Chang, ou avec des exploits de jeunesse.
Non, on ne va pas comparer Boisson à Djokovic.
Effectivement, exploit. Je te parle de l'exploit. Et y arriver.
Voilà, il y a eu un exploit aussi de ce côté-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est plus facile pour moi de faire ce type d'exploit, de sortir de nulle part quand t'es pas connu et quand t'as la folie de ta jeunesse et que t'es pas attendu. Alors que
un
Djokovic,
truc très ponctuel parfois aussi.
Oui, voilà, ça m'impressionne moins, si tu veux, que là, cette capacité d'avoir travaillé, entraîné, préparé, industrialisé.
Tiens, sur WhatsApp, Antoine, au 06 12 424 424, parce que la question du plus grand exploit en tennis de tous les temps, c'est aussi le jeu de la comparaison. À quoi est-ce qu'on peut le comparer? On peut le comparer peut-être à la première fois où Nadal avait battu Federer à Wimbledon. Souvenez-vous, en 5-7, il commençait à faire nuit sur le center court, qui n'était pas encore éclairé à cette époque-là. Et Antoine te pose cette question, Sarah. En quoi Djoko qui gagnerait aujourd'hui, ce serait un plus grand exploit que Federer qui gagne en Australie en 2017 après 6 mois sans jouer. On se rappelle de l'émotion de Federer face à Nadal en larmes après avoir gagné.
Effectivement, on est de la même acabit sur le match isolé, en fait, sur le match isolé. Mais quand tu reprends l'histoire, la victoire de Federer installe un peu plus Federer comme le plus grand des plus grands. Mais là, en fait, il l'installe dans des records qui, à terme, je ne sais même pas s'ils pourront être battus. C'est comme les 14 titres de Nadal. Est-ce qu'ils seront battus? Les 25 titres du Grand Chelem, est-ce qu'ils seront battus? Quand tu vois qu'Alcaraz te dit qu'aujourd'hui il joue, mais il ne sait pas s'il a envie de jouer aussi longtemps. Donc en fait, c'est ça. C'est que ces records qu'il a décrochés sur la longévité, il y a très peu de chances que ces records soient battus.
On revient dans quelques instants avec vous pour en parler. Si Djokovic gagne, est-ce que ce sera le plus grand exploit en tennis de tous les temps? Peut-être que c'est le mot exploit qui pose problème. Est-ce qu'on peut parler peut-être la plus belle histoire de l'histoire du tennis dans ce que ça raconterait justement de cette faculté d'un champion de 38 ans à être capable de battre deux générations, à ne jamais être la bête noire de personne finalement. En tout cas, lui n'a pas de bête noire, c'est plutôt ça. Lui, la bête noire de tout le monde en fait, Djokovic. On arrive dans un instant avec vous sur WhatsApp, on va retrouver voir Eric Salio également l'Open d'Australie pour ne rien rater de l'entrée des joueurs. 9h30 sur RMC, la seule radio sur place à l'Open d'Australie, le seul endroit où vous pouvez vivre l'histoire ce matin du tennis. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
En avant pour l'histoire, dans quelques instants sur la Rod Laver Arena, Novak Djokovic à la poursuite d'un 25e sacre en Grand Chelem à 38 ans va affronter Carlos Alcaraz, 22 ans. Cette finale est déjà complètement irréelle et on en parle ensemble ce matin avec Sarah Pitkowski, avec Fred Le Canu, avec Jérôme Pinault et RMC et la seule radio française en direct sur place depuis Melbourne. D'abord, je vous rappelle que on va vivre tout ça en fil rouge dans l'émission. Et puis aujourd'hui, événement dans les grandes gueules du sport, vous pouvez remporter vos places pour assister au match d'ouverture du tournoi des 6 nations France-Irlande. C'est ce jeudi au Stade de France à 21h. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Avant le match, vous assistez à la dernière heure du Super Moscato Show. C'est très bien. Puis direction le Stade de France pour assister au match avec la personne de votre choix. On vous rajoute le maillot du 15 de France dédicacé par les Bleus. Donc là, c'est vraiment un package incroyable. Dès que vous entendez ceci, bah là, il faudra se réveiller, pas comme tout le monde ce matin. Vous aurez 5 minutes pour envoyer rugby au 7-32-16. Rugby au 7-32-16. Vos places pour France-Irlande se gagnent uniquement sur RMC, si Djokovic gagne, est-ce que ce sera le plus grand exploit de l'histoire du tennis? Tiens, j'ai Manu qui m'envoie un message sur le WhatsApp 06 12 424 424. Jérôme, il me dit, si Bernard Hinault gagne le Tour de France aujourd'hui en battant Pogacar et Vingegaard, ce sera un exploit.
Ah là, ce sera un exploit. Le blaireau.
Non, mais c'est vrai, enfin, on pourrait comparer avec quoi en fait? C'est comme si Froome était resté au niveau et aujourd'hui il serait encore capable de taper Pogacar et Vingegaard. Mais bon.
Ça fait ça, ouais, ça fait ouais. Un peu ça, sans, en sachant qu'il n'y a pas eu de blessures, de trous pour Djoko.
Et c'est ça, en fait.
Mais
il a pas eu.
Courtes,
c'est
ça,
pas comme Nadal, Federer.
Justement, je me disais qu'on allait revenir.
Il a eu
des moments extrêmement compliqués, pas que physiquement, c'est émotionnellement. C'est une blessure. Mais non, c'est pas rien. Il y a eu des moments.
C'est rien, je dis, c'est une carrière. Des hauts et des bas.
Mais Djokovic,
quand tu fais du long, t'as forcément pas toujours le même état d'esprit, la même mentalité, t'as des hauts, t'as des bas. Quand ça dure longtemps.
On est d'accord, la carrière de Djokovic n'a pas été un long fleuve tranquille.
Non. Djokovic, interrogé par Eric Salio, qui est sur place et qu'on va retrouver dans un instant pour vivre l'entrée des joueurs, pour parler de cette finale historique. On l'écoute.
L'histoire est en jeu pour nous deux à chaque fois qu'on s'affronte. C'est une finale de Grand Chelem, il y a forcément beaucoup de choses en jeu. Je l'ai battu l'an dernier ici dans un match éprouvant. On verra à quel point nous sommes tous les deux capables d'être frais, mais il a 15-16 ans de moins que moi. Biologiquement, je pense que ça va être un peu plus facile pour lui de récupérer. Mais oui, j'ai hâte. Je joue au tennis pour atteindre la finale des Grands Chelem. Me voilà, donc je ne peux rien dire. J'essaye juste de profiter du moment. Pour moi, cette demi-finale, c'est une victoire qui équivaut presque à gagner un grand chelem.
Eric Salio, c'est toi qui as interrogé Novak Djokovic. Tu nous disais, c'était à 3h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, après sa victoire en demi-finale face à Sinner. Tu le sens comment à l'approche de cette finale historique? Est-ce que la pression est sur lui ou sur Alcaraz finalement? Eric,
je pense que c'est une bonne question. Je pense que il sait mettre la pression sur l'adversaire. Alors vous savez, hier vous parliez des caméras là.
Ouais.
Je viens de découvrir un truc puisque sur nos écrans de contrôle sur la Rod Laver Arena, on voit les salles d'échauffement et Carlos Alcaraz porte un strap à la cuisse gauche.
Ah.
Donc ça prouve qu'il est pas sorti totalement intact et on s'en doutait hein, de sa demi-finale face à Sacha Zverev. Je rappelle qu'elle a duré 5h27 et qu'elle s'était déroulée en plein cagnard.
Non, ouais, en journée en tout cas.
C'était en journée, voilà. Mm. Alors que Novak Djokovic, lui, avait la night session. Donc ça, c'est un élément important. Je le trouve. Mais Djoko, j'ai trouvé très déterminé, ultra concentré. Il a fait son warm-up seulement une heure avant l'entrée sur le court. Sarah, c'est pas traditionnel. Je pense qu'il a peut-être changé un peu ses habitudes pour arriver vraiment chaud, ultra chaud. Là, il procède vraiment aux derniers échauffements avec son équipe et l'entrée sur le court, elle est imminente, bien sûr. Et on vient de voir Rafa Nadal s'installer en tribune présidentielle. C'est peut-être lui qui va remettre le trophée à Novak Djokovic. Et là, ça aurait de la gueule, non?
Si le met à Alcaraz, ça aura de la gueule aussi. Hein.
Exactement.
Et si tu le donnes à toi, Eric, ce serait irrationnel.
j'ai une question, Eric, pour que tu puisses vraiment nous transmettre des émotions. Parce que, tu vois, paradoxalement, autant je suis hyper admiratif de Djokovic à 38 ans, autant au niveau de l'affect, ça aurait été Nadal, ça aurait été Federer. Peut-être que j'aurais eu plus d'émotions, peut-être que je les aime un peu plus, ces gens-là. J'ai peut-être un peu plus d'affect.
C'est l'attachement à Djokovic.
La question que je te pose, Eric, c'est comment se jouent les émotions à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du pour Djoko ou du contre? Est-ce que les gens sont émus ou est-ce que c'est juste la dimension sportive qui les branche? Comment tu sens le truc?
Que disent les spectateurs à Melbourne?
Moi j'ai pas assisté à l'intégralité du match sur le court vendredi, mais sur le peu que j'ai vu avec Sinner, il y avait une forte émotion Djokovic. On voyait que les gens souhaitaient qu'il détrône l'Italien. Et il y a beaucoup de supporters serbes ici en Australie. Alors ils ont pas tous des tickets sur le central parce que fallait s'y prendre tôt et puis c'est pas donné. Mais il y a une atmosphère particulière autour de Djokovic. Il est soutenu comme jamais. Et je pense qu'il a, ouais, il a, de toute façon, il a une aura naturelle. Ce mec, c'est dingue. Il y a même pas à tergiverser, quoi. On le voit dans ses conférences de presse, ouais, à 3h du matin, ce qu'il dit à la presse internationale, alors qu'il a qu'une envie, c'est d'aller au lit. C'est quand même réfléchi, c'est quand même, c'est pensé, quoi. Et je pense qu'il met aussi une petite pression sur Alcaraz. Maintenant, allez, on lâche les fauves, hein. Je peux en dire plus. Moi, j'en sais rien. Ce qui
on ne sait plus, en fait. En fait, on ne sait plus.
Mais non, c'est plus.
C'est ce qu'a créé Djokovic.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est, moi, j'ai le sentiment qu'il est prêt à mourir, entre guillemets, sur le court. Parce que ce match-là, c'est le match d'une vie pour lui.
Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo, si on devait mourir demain. C'était la référence musicale, je pense, que vous voulez donner. Salio. Tiens, Charles sur WhatsApp, 06-12-424-424, me dit non, ce serait pas le plus grand exploit du tennis pour Djokovic. Ce serait le plus grand exploit de tennis de loin. Personne ne le revoyait gagner en Grand Chelem. On croyait tous à sa tournée d'adieu cette année. Encore moins en battant Sinner Alcaraz dans le même tournoi. N'oubliez pas que ce serait 11 victoires en 11 finales à l'Open d'Australie, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ça aussi qui rajouterait le perfect de Djoko en Australie.
Le public en Australie, son attachement avec ce public australien vient aussi de ses titres et de ce record qu'il détient. On en parlait hier, parmi les trois, Djokovic.
Même si l'oration a été trouble aussi avec notamment l'histoire du vaccin. Hein,
oui,
souvenez-vous,
avec cet Open d'Australie en 2022, effectivement, mais au-delà de cette année 2022, il a toujours été adulé. Alors que dans les autres grands chelems, en fait, il a toujours été à la recherche de l'amour d'un public et il avait toujours les deux devant qui prenaient plus d'attention, plus l'amour, et il cherchait, et il l'a pas obtenu. Hein. Et puis à un moment, il s'est dit, bon, je vais arrêter d'aller chercher quelque chose que je peux pas obtenir, je resterai le méchant des trois, et je vais jouer là-dessus.
Tiens, un allié pour Jérôme Pinault, Xavier nous appelle au 32-16, salut Xavier.
Salut les GG.
Eh ben écoute, Xavier, on est ravis de t'accueillir ce matin dans des grandes gueules du sport un peu spéciales, évidemment, on bouscule le programme pour vivre en intégralité pratiquement cette finale entre Alcaraz et Djokovic, on va parler des autres sports aussi, mais on aura toujours un regard sur cette finale. Pour toi, ce serait pas un exploit si Djoko gagne aujourd'hui ?
Alors, un exploit,
pas
le plus grand, quoi, parce que je crois, si je ne m'abuse, qu'il n'a pas eu une quinzaine complète au niveau des affrontements, qu'il y a eu.
Il manque deux matchs, 4 heures de moins pour Alcaraz.
Voilà, c'est ça. Donc déjà, ça, pour moi, ça minimise un petit peu les choses. Je pense que s'il avait fait ses matchs, eh bien, il n'aurait pas pu tenir les 5-7 face à Sinner. Et puis, je crois me souvenir, si je ne m'abuse, que Roger, c'est à 39 ans qui score le dernier majeur. Oui. Donc,
Djoko a 39 ans dans quelques mois, c'est pareil.
Federer, c'était à 37. Hein.
C'était à 37, plus ou moins la même chose. Ouais.
Mais ce serait un exploit, mais pas le plus grand exploit. Il aurait eu une quinzaine tout à fait complète. Ouais. Ça aurait donné un peu plus de relief à la chose.
Xavier, priorité au direct, parce qu'on va vivre ça avec toi, Eric Salio. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont rentrer sur la Rod Laver Arena pour cette finale de légende que vous vivez seulement sur RMC, bien sûr.
J'ai des frissons. Vous savez qu'ils se sont croisés dans les couloirs, ils se sont pas regardés. Djokovic est passé devant, alors que d'habitude, il y a des petits échanges, on se tape dans la main. Non, là,
peut-être qu'ils sont pas vus.
C'est la guerre.
Ouais. Il a vu qu'il était là ou pas ?
Crois-moi.
La porte s'ouvre sur la Rod Laver Arena.
La porte s'ouvre. Là, c'est de l'émotion pure, là, parce que ils ont changé le protocole. Hein. Ouais. Ils ont changé le protocole. Maintenant, les deux joueurs ne rentrent pas l'un après l'autre. À un moment, il y a une bifurcation. C'est comme sur l'autoroute. L'un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Et chacun va rentrer d'un côté du court avec l'annonce du speaker. Et pour l'instant, c'est Novak Djokovic qui pénètre le premier dans ce couloir.
Quel regard il a, Djoko.
Ouais, c'est fantastique. Et sachez qu'il y a des extraits de victoires des plus grands champions. Donc Djoko va entendre peut-être le speaker dire « Djokovic gagne ici !» C'est très bien foutu. Et donc Alcaraz est juste derrière. À un moment, ils vont se séparer. Voilà, ça y est. Il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Et maintenant, c'est l'entrée sur le court. On va savourer ça. Ça va être immense.
Ouais, avec Carlos Alcaraz qui va passer devant le visage de Novak Djokovic de ses 10 titres à l'Open d'Australie. Tiens, prends-toi l'histoire dans la tête, Carlitos. Exactement. Avant de rentrer sur le terrain, les deux garçons ont le visage fermé, on sent une concentration, on sent une conscience peut-être du moment qu'ils sont en train de vivre et qu'ils vont faire vivre au monde entier. C'est le monde entier qui écoute et regarde cette finale. On écoute le speaker de la Rod Laver Arena. Alcaraz Djokovic sur RMC. From Spain, Carlos
Alcaraz. Le stade est plongé dans le noir, faut le préciser. Hein.
Djokovic. Il y a plus d'applaudissements pour Djoko. Ouais. Hein.
Il a gagné à l'applaudimètre.
Ouais.
Il a gagné. Et il passe devant la coupe, Novak Djokovic. La coupe était tout près de lui, par hasard.
Il n'a pas touché la coupe.
Non, il n'a pas le droit.
Il n'a pas le droit, il peut le faire. Mais
alors là, je vais surveiller parce que est-ce qu'ils vont ouvrir le toit ? Voilà, ils ouvrent le toit. Donc le match se déroulera en diurne. C'est une bonne nouvelle, mais attention, il y a beaucoup de vent. Donc peut-être que ça va, la qualité va en pâtir, mais en tout cas les organisateurs ont décidé de jouer en outdoor, voilà. Et c'est bien.
Non mais là on a l'impression que c'est un vaisseau spatial qui est en train de s'ouvrir à la Rod Laver Arena. Ouais, ça donne une dimension
la
encore
scénographie
plus
des finales,
mystique à cette finale.
La scénographie des finales de Grand Chelem sont maintenant extraordinaires.
Alors Eric, Sarah, pour qu'on comprenne bien, parce que là les grands spécialistes ne le savent pas, mais on ouvre le toit, on va jouer donc en condition outdoor. Oui. Ça a avantage dans les deux joueurs ou pas?
Oui, là, je sais pas trop.
Peut-être Djoko, non, un petit peu.
Djoko aurait bien aimé jouer en indoor.
Oui, je pense parce que c'est parce que Djoko est très fort en indoor et parce que Djoko, ouais, il gagne face à Sinner parce qu'il a eu un service, mais oui, au millimètre. Et donc, absolument, en fait, il a servi, il ne sert pas le plus fort, mais il est extrêmement précis. Et c'est ce qui a fait, face à Sinner, où il a réussi à mettre un trouble chez Sinner parce qu'il n'arrivait pas à lire, Sinner n'arrivait pas à lire le service de Djoko. Donc, quand tu as du vent, ouais, forcément,
du vent, bah,
forcément, le vent fait que tu peux pas être, tu es obligé de prendre des précautions par rapport aux lignes. C'est-à-dire, tu prends plus de sécurité parce qu'à tout moment, ta balle peut prendre le vent. Donc, est-ce que ce petit détail va faire en sorte va changer le service de Djoko.
Précisons que si jamais il y a une petite averse, ils vont fermer le toit et après, oui, on jouera en indoor.
C'est-à-dire qu'il faut savoir, donc, que quand tu le refermes, tu ne peux pas le rouvrir même s'il voilà s'arrête
c'est
de pleuvoir.
Une fois que c'est fermé, c'est fermé.
Une fois que c'est fermé, c'est voilà fermé.
Alcaraz, Djokovic, ils sont sur le terrain pour la grande finale de l'Open d'Australie. Oh là, on est comme des fous avant de vivre ensemble cette finale. Vivez ensemble, vivez la finale avec nous ce matin.
L'entrée elle est déjà, c'est déjà un exploit. Hein.
Ah ben.
L'entrée, là, j'ai des poils de partout qui se dressent. C'était magnifique.
Ah, mais magnifique. Là, c'est du cinéma. Hein.
Ah, c'est magnifique.
Cinéma. Partagez cette finale avec nous sur WhatsApp au 06 12 424 424. Dites-nous comment vous êtes pendant toute cette finale qu'on va suivre en fil rouge. On la vit ensemble sur RMC ce matin. RMC, la seule radio française à vous faire vivre sur place cette finale en direct. Dans un instant, le zapping, on va aussi parler de l'OM. Ensuite, on va parler de rugby et également votre programme. Mais vous ne raterez rien des grands moments de cette finale entre Alcaraz et Djokovic. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport vous accompagnent ce matin pour vivre Alcaraz Djokovic, la grande finale de l'Open d'Australie, une finale pour l'histoire. On est avec Sarah Pitkowski, avec Fred Le Canu, avec Jérôme Pinault et Eric Salio en direct de la Rod Laver Arena. RMC, la seule radio française à vous faire vivre cette finale en direct sur place. Évidemment, dans un instant sur le ring, on va parler de l'Olympique de Marseille qui a été accroché hier, une semaine cauchemardesque. Est-ce que vous croyez encore en Roberto De Zerbi, supporter marseillais? On vous attend au 32-16. Puis je vous préviens d'ores et déjà que ce soir à partir de 19h30, un Bartoli Time spécial Open d'Australie, Joe Wilfried Tsonga sera avec nous également pour revenir sur cette grande finale. Joe qui avait affronté justement Novak Djokovic il y a 18 ans pour sa première finale à l'Open d'Australie. On va en parler justement tout à l'heure dans les GG. On remonte le temps avant le zapping dans un instant, les amis. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne rate rien des premières balles de cette finale, parce que les premières balles disent souvent quelque chose de la pression qu'il peut y avoir. Eric Salio, on est en train de se préparer.
Ouais, et sachez que le petit coin météo, je vous confirme qu'il fait frisquer 16 degrés. C'est vrai que moi j'ai mis le nez dehors tout à l'heure, j'avais la petite laine et il y a des bourrasques devant, donc ça va être un élément important.
Il va falloir qu'ils prennent un petit plaid au changement de côté, c'est ça que tu m'as dit?
Pourquoi pas. D'habitude, ils ont le truc pour amener de l'air froid, là ils vont amener le chauffage.
Ah ouais?
Non,
pas très rigolo, ça.
Bon, ça va. Ils sont bien échauffés, sont des professionnels. Il y a pas de doute. Mais c'est frisqué. Et comme disait Sarah, Djokovic, il aime bien que ce soit des conditions nickel. Là, il va falloir adapter le lancer de balle parfois. Voilà, l'échauffement est terminé. Sachez que c'est un arbitre australien, John Bloom, qui a le privilège d'arbitrer cette finale. En passé, c'était un Français, Daniel Dumussois, qui avait été nommé. Et donc, j'ai pas suivi le tirage au sort. Je sais pas qui a gagné le toss, mais on va être fixé très vite. Et là, l'échauffement vraiment arrive à son terme. Les deux joueurs viennent d'avaler la dernière gorgée de bière et ça va partir.
De quoi?
On va lâcher les faux.
Mais une culture musicale et littéraire d'Eric est surprenante. Ouais. Eric, est-ce que tu l'as vu cette stat?
Je précise qu'il boit du jus de concombre plutôt, hein. De cornichon.
Eric, tu l'as vu cette stat qui t'est apparue sur les écrans sur le pourcentage de victoires possibles? On met 59 pour Alcaraz et 41 pour Djokovic. C'est ultra serré les stats de cette rencontre.
Même l'IA ne sait pas. Même c'est, Liam ne sait pas qui va gagner.
C'est assez étonnant quand même.
C'est les stats, hein, Sarah.
Oui.
Hein.
Ouais, mais là, de côté, hein. Si on avait écouté les stats pour Djokovic,
c'est Djokovic qui
va servir. Allez, Eric, les premières balles avec toi.
Et donc, c'est lui donc, qui ouvre le bal.
Vous êtes sur RMC, c'est la finale de l'Open d'Australie entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Eric Salio est sur place à la Roland Garros.
Il est dedans et Djoko qui a failli monter au filet, mais il attend, il prend son temps et pour l'instant, voilà, il remporte le premier point puisque le coup droit de Carlos Alcaraz sort de 3 mètres 23. 15-0 pour Novak Djokovic dans cette finale. Je vais surveiller l'état physique de Carlos Alcaraz parce que ce petit strap à la cuisse, voilà, il est pas forcément rassurant, même si c'est pas la première fois. Mais Djokovic, lui, a l'air nickel. Bon, Sarah, tu sais, hein, c'est un pro. Hein, il a dû bien récupérer, même si je rappelle qu'il a fait sa conférence de presse à 3h du matin vendredi. On les a pas vus au stade samedi. Ils sont restés faire du frais, comme on dit, faire du jus et échauffement. Assez tôt dans l'après-midi pour Alcaraz avec Diego Schwartzmann et Djokovic, lui, s'est entraîné une heure avant. Il a quitté la Rod Laver Arena juste une heure avant le coup d'envoi de cette finale. Donc, échauffement tardif pour le Serbe. 30-0 pour Novak Djokovic dans cette finale avec deux erreurs de Carlitos.
On vit ce premier jeu avec toi, Eric. Sarah, c'est important là pour Djokovic tout de suite montrer que.
Oui, pour lui c'est important. Il faut qu'il rentre parfaitement dans ce match. Après, il y a toujours ces rondes d'observation. Hein, on est au meilleur des 3-7, donc on monte tout doucement en puissance. Mais c'est vrai que sur les jeux de service chez les hommes, c'est très important d'être tout de suite très bien rentré dans sa rencontre.
40-0 avec un revers à contre-pied de Novak Djokovic et dans le dos de Novak Djokovic, il y a Rafa Nadal. c'est historique, mais tout est.
Parce que t'imagines, Djokovic gagne et c'est Rafa Nadal qui lui remet la coupe. Ils se sont joués à trois finales. Les trois finales entre Djokovic et Nadal à l'Open d'Australie ont tourné en faveur de Djokovic.
La fameuse finale de 5h53, ça.
Oui.
2012.
Oui, le plus,
fini à
6 le heures match du mat, le plus long.
Les gens passaient l'aspirateur dans la salle de presse, je m'en souviens, ça. Oh, quel souvenir.
Mais Roger, il aurait pu rester à l'Open d'Australie quand même, hein, pour regarder la finale fédérale.
Oui,
il était là au début.
C'est vrai.
Franchement.
Il était au début, mais bon, il peut pas. Et il a des choses à faire, hein.
Il a une ville, Roger. Ouais. Bon, on en est où, Eric?
40-0 avec un échange qui s'installe. C'est premier long rallye là. Et Alcaraz qui fait mal à Djokovic, qui appuie avec son coup droit et qui va sûrement remporter le point. Vous voyez, un coup droit penalty, c'est fait. Ah, bon indicateur là. Carlos Alcaraz, quand il lance la machine, il a du mal à suivre Novak Djokovic. 45 donc pour Novak Djokovic. Ce point-là, il va donner confiance à Carlitos parce que j'estime que c'est ce qui avait manqué un peu à Yannick Sinner, c'est de le côté percutant qu'il n'avait pas avec son coup droit. Et on sait qu'Alcaraz, il a un bras fabuleux, il est capable de te mettre à 3 mètres de la balle, ce qui n'était pas le cas de Sinner qui, je sais pas dans quel état il est là, l'Italien, mais il a dû avoir du mal à digérer ça parce que il a eu tellement d'occasions dans sa demi-finale que je pense qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Voilà, Novak Djokovic sur un service gagnant. 1-0.
1-0 Djokovic, service à suivre pour Alcaraz dans le premier set de cette grande finale de l'Open d'Australie que vous vivez sur RMC, la seule radio française sur place. Allez, tout de suite, on ouvre le zapping.
Le zapping des grandes gueules du sport.
On va rester avec du tennis, tiens. Je m'en fous pas. En tennis, justement, la française Xenia Efremova, vainqueur de l'Open d'Australie chez les juniors. On s'en fout pas, Sarah.
Bah non, on s'en fout pas.
Jérôme.
Bah non, on s'en fout pas.
Fred.
Non, on s'en fout.
Quel mauvais acteur.
Le méchant.
C'est une première depuis Virginie Razzano en 99. À 16 ans, Xenia Efremova s'est imposée face à la russe Ekaterina Tupintsina, 6-3-7-5. Prodige annoncé, la française d'origine russe, naturalisée en 2023, sera numéro 1 mondial junior demain. C'est toi qui lui as annoncé d'ailleurs, Eric Salio, après son sac australien. Un rêve accompli, on l'écoute.
C'était mon objectif, non? C'est super. Quand je m'entraînais à Paris, je me disais tout le temps, je vais gagner. Et là, je suis avec celui-là, c'est mon bébé. Tous les matchs, c'était en bataille de ouf. Et j'espère que je vais continuer comme ça. Avant de partir sur le match, je me disais, bon, si je vais gagner, c'est sûr, je vais faire ça. Donc, c'était un mode de Sabalenka, un mode de Djokovic, tout le monde.
Je lis que tu vas passer numéro 1 mondial, apparemment.
Ah ouais, c'est vrai? I'm number one in the world? Non.
Peu importe si c'est un ou deux ou trois. Et comment
non,
tu vas
non,
gérer?
Non, pas du tout. Numéro 1, c'est mieux, non?
Bah oui, c'est mieux. Il est bon, Eric, quand même. Peu importe s'il est numéro 2 ou numéro 3.
Tu as passé numéro 1 ou 2 ou 3. Ouais, ouais. Pas.
À la louche.
Non, mais c'est l'art de poser des questions débiles pour avoir d'excellentes réponses.
C'est un métier. C'est un métier, Eric.
Et là, tu as quelques années d'expérience. Et là, tu excelles.
Tu sortais de la cantoche, là, non? C'était un peu lourd. Hein.
D'ailleurs, oui, je commence à avoir une petite.
Ah, ben, j'allais te poser la question si le jour de finale, c'était gueuleton ou c'est la même chose? Est-ce que la cantoche est historique à l'image du match?
Juste pour revenir sur Efremova, parce que c'est important. Sarah, franchement, là, on s'enflamme ou pas? Une Française qui gagne l'Open d'Australie Junior, qui est numéro 1 mondial.
On s'enflamme, c'est surtout, ça fait énormément de bien, parce qu'on sait que le tennis féminin français a du mal à.
Le tennis français tout court, hein, Sarah?
Non, il y a une différence entre les hommes et les femmes, parce que déjà le réservoir est vraiment famélique.
Ah oui.
Du côté des filles dans le top 100, qu'on n'arrive pas à retrouver le rang que la France devrait tenir, compte tenu de tous les investissements, compte tenu des moyens qu'on peut avoir. Donc d'avoir cette bouffée d'air frais de Xenia Efremova, certes jeune fille naturalisée en 2023, mais depuis très longtemps, depuis son tout jeune âge, elle s'entraîne sur le sol français. Elle a été formée par des entraîneurs français.
Dans l'académie Patrick Boudor-Antoglou, notamment.
Entre autres, après, elle a été au LTC donc de Jean-René Lisnard. Elle est suivie de près par la Fédération Française de Tennis. Et cette victoire l'inscrit un peu plus dans, effectivement, le chemin pour lequel elle se programme, parce qu'elle vise très, très haut. Et on voit que sa culture initiale, qui est la culture des pays de l'Est et la culture russe, ça transpire chez cette demoiselle qui n'a pas une vie très, très facile, puisque le premier tournoi qu'elle gagne chez les jeunes, eh bien, c'est la veille du décès de son papa.
Son papa, oui.
Et elle continue à jouer, elle va remporter ce match-là. Elle n'a pas été à l'enterrement de son papa, elle n'est même pas retournée sur la tombe de son papa à ce jour. Et c'est une famille, c'est une maman qui a été joueuse de tennis, qui a 3 enfants. Et elle programme ses enfants pour qu'il y en ait un qui perce au tennis. Et c'est cette culture-là qui existe depuis longtemps dans les pays de l'Est, surtout du côté du tennis féminin.
Les amis, on en a un peu rigolé en début d'émission sur le fait que quand tu gagnes chez les juniors, ça ne veut pas forcément dire que derrière tu vas être un super champion chez les pros. À quel point c'est dur justement de confirmer, enfin, Fred et Jérôme, vous étiez tous les deux chez les juniors des cracks, hein?
Non, oui, mais... c'est la colonne qui a fait crack derrière.
Non, mais
pour être sérieux, c'est... Ouais. Non, mais il y a vraiment un passage énorme entre les juniors et les seniors. C'est un monde. Les juniors, c'est aussi la force des émotions, c'est la force de l'envie.
Et t'as la pression quand t'as attendu derrière.
Oui, et derrière, ça devient vraiment un métier, en quelque sorte, une industrie, dans le sens où il faut répéter. Et c'est un univers, le tennis, en plus, qui est très particulier pour ça, parce que tu perds plus que tu ne gagnes. Donc,
il y a le côté, Fred, aussi, travail.
Oui.
Nous, dans le vélo, et je pense que c'est pareil dans le tennis et dans le judo, c'est pas très compliqué de faire performer un jeune. Le seul souci, c'est qu'il faut lui garder la marge pour derrière aller performer chez les grands. Si tu as une charge de travail.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est difficile de les faire performer. Mais par contre, c'est très difficile de les faire convertir derrière dans un univers senior où tu as raison.
Ouais, ça devient un travail. Chez les juniors, si tu arrives à faire des kilomètres et des kilomètres d'entraînement à un jeune junior, évidemment qu'il a du talent, tu ne deviens pas dans le top mondial comme ça. Si tu le fais beaucoup travailler, tu arrives à des grands résultats. Après, le problème, c'est la marge qu'il faut de suite en remettre une couche pour aller chez les pros et gagner chez les professionnels, quel que soit le sport. Et là, c'est déjà plus difficile.
Allez, on zappe un partout pour l'instant entre Djokovic et Alcaraz. Service à suivre pour Djoko. On suit ça avec Eric Salio sur place. Je m'en fous pas. On parle de tennis là, mais c'est une journée historique aussi en cyclisme, attendue pour Mathieu Van Der Poel, Jérôme Pinot.
Mais on s'en fout pas, évidemment.
Fred.
Oh, je m'en fous aussi.
Sarah.
Non, je m'en fous pas.
Le Néerlandais Mathieu Van Der Poel s'avance en immense favori des mondiaux de cyclocross qui se déroulent chez lui aux Pays-Bas à Hulst, avec un 8e titre historique en vue. Départ à 15h. Il dépasserait le Belge Roger de Vlaminck s'il gagne. C'était ça le nom que t'as retenu pour les Jeux.
Ouais,
Sarah, cette saison, le vainqueur de Paris-Roubaix, âgé de 31 ans, a remporté 12 victoires en 12 courses en cyclocross, où il est invaincu depuis 2 ans. Franchement, alors, le grand public suit surtout le cyclisme sur route, Jérôme. Mais il faut dimensionner ce que réussit ce garçon quand même. Hein.
C'est un génie du vélo. C'est le plus grand coureur de cyclocross de tous les temps, puisque au-delà du fait qu'il va, sauf problème mécanique aujourd'hui, gagner ce titre, puisqu'il est tellement au-dessus, hein, il gagne toutes les coupes du monde avec 30, 40, une minute d'avance.
Mais c'est fou.
Tous les week-ends. Il est Mathieu pour le positionner 240 cyclocross depuis qu'il est élite en participation, 180 victoires. Il a perdu que 40 courses. C'est à te dire que ce garçon-là, quand il prend ce vélo-là, comme d'autres vélos, mais celui-là particulier, il est imbattable.
J'ai une question à te poser, alors elle est peut-être hors sujet, mais est-ce que sa dimension physique aussi, elle joue pas, dans le sens où c'est, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui appuie beaucoup? Et comme le cyclocross, ça demande peut-être de lever un peu à l'avant, d'avoir une autre vision que, enfin, pardonne-moi, je suis novice,
mais il développe beaucoup de puissance. C'est pour ça qu'il est aussi qu'il est le maître de Paris-Roubaix.
Voilà, c'est ce que vous voulez parler.
Il ne crève jamais, il ne chute jamais, il fait jamais de faute parce que Mathieu, il s'est allié la puissance et la technique.
C'est ça.
Il a aujourd'hui dans la roue son successeur qui s'appelle Tibor Del Grosso, parce qu'il a quand même annoncé que s'il gagnait ce 8e titre, il courrait peut-être moins la saison prochaine ou pas la saison prochaine en cross et qu'il laisserait le cross. Celui qui arrive est le même que lui, un peu moins puissant mais très technique. C'est un garçon qui allie les deux. C'est un, ouais, il a une agilité de mec de cirque et une puissance d'un sprinter sur piste.
C'est un acrobate. T'as raison. Tiens, avant de retourner à Melbourne, les amis, je voulais juste vous dire qu'à Sydney, en Australie aussi, Benoît Saint-Denis cette nuit a dominé Dan Hooker lors de l'UFC 325. C'est du MMA. Il s'est imposé par TKO au deuxième round. C'est sa 4e victoire en 9 mois. Il se rapproche du top 5 des poids légers. Je voulais en parler parce que pour moi, c'est la punchline de la nuit. Écoutez ce qu'il a dit, BSD.
J'ai amené un rythme très soutenu, j'ai été généreux pour pouvoir lui monter le cardio et l'amener là où j'ai envie, c'est-à-dire beaucoup de chaos. Et ça amène une perte de lucidité chez l'adversaire. Pouvoir le manger, ça a été moi le crocodile dans l'octogone alors que je suis en Australie. Voilà, le crocodile a mangé le kangourou.
Au-delà de la punchline, ce qui était super intéressant, c'est son adaptation. Parce que tu vois, il était parti sur une stratégie un peu fixe, comme il l'a parfois. Tu sais, des fois, il est un peu en mode bulldozer, j'avance, on verra bien. Tu sais, à la Rocky Balboa, je survis, on voit comment ça tombe. Et là, il s'est vraiment adapté à son adversaire. Il a pris des coups en direct, il s'est adapté, il a réussi à trouver une solution. Ça, c'est à noter au-delà de la punchline. Le crocodile aussi a été intelligent.
Alors, je sais pas comment se comporterait un coq face à un crocodile.
Il vole, il s'envole.
Il s'en va.
Un kangourou. Face à un kangourou, il y a peut-être match. Hein.
À voir. Dans un monde de l'imaginaire, là, tu me fais peur.
Ça a porté préjudice à Jeff avec le kangourou.
Il faut combien, de coqs pour battre un crocodile?
Allons-y.
Alors, l'alerte coq, c'est parce que c'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour France-Irlande ce jeudi au Stade de France. Vous avez 5 minutes pour envoyer rugby au 7-32-16. Rugby au 7-32-16. Avant de se quitter pour les infos, Eric Salio, très rapidement. Djokovic, Alcaraz, finale de l'Open d'Australie. On en est où?
12 minutes de jeu. Deux choses à apprendre à Djokovic, c'est Alcaraz qui est au service 15-1 et tout à l'heure j'aurai une info très importante à vous communiquer.
Le teasing est incroyable, je pense que si vous êtes au volant, vous êtes arrêté, vous avez mis les warnings,
les
c'est une certitude.
Sont aux épinards,
à la cantine de l'Open d'Australie. Allez, on revient dans un instant, on va parler foot, on va parler de l'Olympique de Marseille, notamment qui continue de voir son cauchemar. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.